Les abords du tribunal de Paris ont été complètement bouclés. Ronde des policiers, contrôle d'identité, fouille des sacs. Le procès des attentats de janvier 2015 s'est ouvert ce matin sous haute sécurité. Un dispositif inédit pour un marathon judiciaire hors norme. 49 jours d'audience, plus de 144 témoins attendus, un événement couvert par 90 médias, dont 27 étrangers.
Ce procès, c'est un procès historique. Et ce procès, au-delà de sa force symbolique, est le procès de l'intolérance religieuse extrême. C'est le procès de la forme la plus extrême de la censure, qui est l'assassinat.
Le 7 janvier 2015, deux djihadistes, les frères Kouachi, abattent 12 personnes au siège parisien du journal satirique Charlie Hebdo et dans une rue adjacente. Deux jours plus tard, un complice, Hamedi Coulibaly, tue une policière à Montrouge et quatre clients de l'hypercachère Porte de Vincennes. Trois jours de traque et d'horreur qui ont marqué à jamais les Français. 5 ans plus tard, 11 complices présumés des terroristes se retrouvent sur les bancs de la cour d'assises. Soutien logistique, armes, argent, logement, la justice va faire la lumière sur leur rôle dans la chronologie des événements. C'est ce qu'attendent les victimes.
Déjà, la tension se sent et je veux juste qu'ils répondent, que ces personnes répondent aux questions qui leur seront posées. Pourquoi les hommes innocents ont été tués ?
5 ans après, le procès des attaques de janvier 2015 peut-il panser les plaies ouvertes par le terrorisme ? Le procès est-il historique ? Peut-il permettre à l'opinion publique d'approcher la vérité de ces 3 jours d'horreur ?
Pourquoi ce procès d'assises se déroule sans jury, donc sans jury populaire, Denis Salas? Cette cour d'assises est dite spéciale parce que spécialement composée, c'est-à-dire qu'elle ne comporte pas de jury, de jurés, c'est uniquement des magistrats professionnels. Comment est-ce que ça se fait d'abord et faut-il le déplorer? Est-ce que ça change quelque chose?
C'est une réforme qui est intervenue en 1986, pendant les premiers procès du GIA, notamment les premiers procès liés au GIA. Et à l'époque, on s'était aperçu qu'il y avait un absentéisme assez fort des jurés au moment de ces audiences.
Parce qu'ils avaient peur?
Il y avait une forme de peur qui s'était installée. Et face à la défection possible des jurés et la difficulté d'organiser ces procès, la loi a décidé que ce seraient des procès spéciaux. Ce n'est pas le seul cas où, effectivement, les jurés sont absents des procès. Dans d'autres hypothèses, trafic de stupéfiants, notamment, c'est le cas. Donc voilà, c'est pour cela.
D'accord. Évelyne Chermarin?
Écoutez, moi, c'est la loi, donc il n'y a rien à dire. Maintenant, c'est dommage pour un grand procès national que ça a tellement touché les gens, et puis l'affaire ensuite du Bataclan également, avec les manifestations, etc. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas de juré populaire. Vous savez, un procès d'assises normal, c'est 9 personnes, dont 6 jurés. Et là, on aura 5 magistrats professionnels. C'est quelque chose de, vous voyez, beaucoup plus, bien sûr, technique, professionnel, froid. C'est très, très différent. Et c'est dommage.
Le chiffre du jour, Anne.
Oui, Elisabeth, c'est 171, car le dossier est lourd de 171 tomes de procédures, soit des milliers de pages concernant les comptes rendus des enquêtes de police depuis 5 ans, les rapports d'expertise et les analyses scientifiques. Alors, Gilles Kepel, ce procès qui va bien sûr donc rentrer dans les détails des attentats du 7, 8 et 9 janvier 2015, on en attend quoi? Justement l'entrée dans les détails ou le procès qui charrie des valeurs et des principes dans lequel nous allons tous débattre et affirmer?
Le procès lui-même, non, c'est la recherche de la vérité. Après, le débat, il viendra ensuite, justement, et c'est si le procès est réussi, parce que tous les procès de cette affaire ne sont pas réussis, et c'est un peu le débat aussi.
Qu'est-ce que ça veut dire, un procès réussi et un procès raté?
Les procès d'Abdelkader Merah n'ont pas été réussis.
Dans le sens où, quoi, il y a eu l'établissement d'aucune vérité?
Ça a été mal fait. Enfin, je ne veux pas interférer dans le jour de travail de la justice, j'ignore qui sont les responsables, mais si vous voulez, c'était très frustrant, parce qu'on avait l'impression qu'on n'avait pas ce qu'on attendait, surtout ce qui, comme mes collègues et moi, avons suivi un petit peu ces choses, ces affaires. On a l'impression que le destin n'a pas été suffisamment fouillé, qu'il y avait, bien que ça ait pris du temps. Et là, on attend de celui-ci quand même quelque chose d'exceptionnel. Ça va être justement, il n'y a pas de jury, mais ça va être filmé, ce qui est une
des
nouvelles. Et je crois que c'est ça, parce que bon, on a, tous les mois, avec mes étudiants, mes collègues, on connaît assez bien ce sujet. On a vu beaucoup de monde. Hugo Micheron, vous aviez invité, est allé en prison également pour interroger les djihadistes. On est allé en Syrie, on suit des choses sur le web, tout ça. Donc on a beaucoup d'éléments, mais ça ne remplace pas le travail de la procédure judiciaire, qui a aussi d'une certaine manière ses limites, mais qui est d'une certaine manière, si j'ose dire, le terminus ad quem, le point final de l'opération. Et ça, pour nous, c'est un enjeu très important. Et du reste, on va suivre nous aussi ce procès, parce que ça fait partie également de la matière pour l'université, pour comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas exclusif, mais c'est un enjeu absolument majeur.
Et puis, Denis Sellas, vous vouliez revenir sur ce point, une réponse démocratique à un déferlement ensauvagé de violences djihadistes.
Absolument.
Et ça, c'est très important.
Ça me semble très important, parce que notre réponse au terrorisme jusqu'à présent, ça a été une réponse guerrière, avec les armes. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement tout un état d'urgence pendant plus de deux ans, il y a eu un arsenal pénal qui a été constitué, il y a eu énormément de ripostes sur le terrain et hors de nos frontières. Donc, si vous voulez, là, la différence, c'est qu'on va se battre avec les armes du droit, c'est-à-dire avec l'échange avec l'échange discursif, l'échange argumenté de la parole. Et donc cet espace de parole qui va s'interposer dans le champ des protagonistes me semble un moment très important, parce qu'à ce moment-là, effectivement, tout le monde sera réuni au même moment pour entendre la même chose afin de prendre une décision. Donc il y a une dimension dans ce procès réparateur, une dimension restauratrice, pour les victimes, d'une part, et pour la restauration de l'état de droit.
Alors, tout le monde est réuni au même moment, mais est-ce que tout le monde se confronte ? Est-ce que tout le monde se voit ? Est-ce que les gens vont se croiser ?
Alors,
entre
c'est,
les parties civiles,
c'est
les accusés,
toute la question, effectivement,
qui sont vraiment rassemblés.
Des conditions sécuritaires et sanitaires, puisqu'on vient d'apprendre que les protagonistes seraient masqués pendant l'échange de paroles. Donc, il faudra.
Les protagonistes.
Tout le monde, tous ceux qui sont.
Tous ceux qui prendront la parole seront masqués.
Devront être masqués. Enfin, tel que le président nous l'a dit ce matin. Donc ça va être quand même, et pour l'histoire, ça va être un petit peu compliqué de ne pas avoir accès au langage corporel. Et un procès, c'est aussi un langage corporel. Et là, je pense, de ce point de vue-là, on sera peut-être déçus si cette jurisprudence est maintenue.
Nadia, effectivement, filmage intégral de toutes les audiences, on en parle.
Ouais, ce procès est filmé parce qu'il présente un intérêt pour la constitution d'archives. C'est avec ces mots que le ministère public a justifié la captation de ce procès. La demande avait été formulée par le parquet national antiterroriste. Et concrètement, voilà comment ça va se passer pendant ces deux mois et demi. Cinq caméras qu'on voit là, on en voit deux qui sont installées dans la salle, dans les salles du nouveau palais de justice. Elles sont assez discrètes, elles ressemblent donc à ça. Elles sont raccordées à une régie installée derrière le greffe où le réalisateur et un technicien reçoivent les images en direct. Ils doivent, ces deux personnes-là, obéir à des règles strictes. On filme celui qui parle, celui à qui il s'adresse, pas le reste de la salle, c'est-à-dire pas les réactions. Sont proscrits également tous les effets de dramatisation, comme les plans de coupe, les zooms ou encore les gros plans. On peut préciser également qu'une fois ce procès terminé, les images vont être immédiatement versées aux archives nationales. Elles ne pourront pas être consultées par le grand public avant 50 ans et elles ne vont évidemment pas être diffusées pendant la tenue de ce procès. Alors s'il existe un tel cahier des charges, c'est parce qu'il y a des précédents, 14 procès en tout cas qui ont été filmés en France. On peut citer ceux de Klaus Barbie, on voit les images, Maurice Papon pour crime contre l'humanité, ou encore Robert Forisson pour négationnisme, mais c'est bien la première fois qu'un procès pour terrorisme est filmé. Et pourtant, ça aurait pu se passer il y a quelques années, il y a trois ans, quand la famille d'une victime de Mohamed Merah avait demandé l'enregistrement audiovisuel du procès de son frère Abdelkader Merah. Il était jugé pour complicité d'assassinat terroriste. Et à ce moment-là, la Cour d'appel de Paris a refusé. Elle a estimé, je cite, qu'au-delà du caractère atroce et du retentissement de l'affaire, l'intérêt historique est faible. Évelyne Sirmarin, pourquoi ces deux différences ? Pourquoi cette différence de décision ? L'un est historique, l'autre non ?
Écoutez, je ne sais pas. Je pense que les choses ont quand même évolué. Et encore une fois, c'est un grand procès national, peut-être plus que celui de Merah. Bon, ça se discute. On verra celui du Bataclan. Simplement, je voulais rappeler que dans ce procès-là, il y aura 85 avocats. Dans celui du Bataclan, ça va être passionnant, mais terrible aussi, puisqu'il y aura presque 300 avocats. Et par ailleurs, les quatre salles vont poser problème. C'est une organisation qui a été décidée, mais dans ce procès-là, il y a quatre salles d'audience. Et si vous voulez, la cohérence, la catharsis d'un procès pénal, c'est de mettre tout le monde quand même au même endroit. Alors, ils sont au même moment, mais ils ne seront pas au même endroit. Et je voulais aussi dire quelque chose d'intéressant pour voir comment la justice se pose des questions sur ces grands procès. C'est que, vous voyez, ce n'était pas évident de juger en même temps. Ce n'était pas si évident l'affaire du supermarché Cacher et puis cette affaire-là. L'affaire de Charlie Hebdo, et puis il faut jamais oublier
la policière.
Et la policière. Pourquoi c'était pas évident? Parce qu'il y a des divergences de stratégie entre les différentes parties civiles. On parle pas de victimes, hein, tant qu'on n'a pas été condamné, tant que les préjudices n'ont pas été fixés, on parle de parties civiles. Et il y a des stratégies très différentes, parce que certains avocats du supermarché Cacher considéraient que ça devait être spécifique. C'était une attaque contre les Juifs.
Une attaque antisémite.
C'est pas du tout la même chose que Charlie Hebdo. Ouais. Bon, ça n'a pas été choisi. Pourquoi? Parce qu'on a considéré que les auteurs, les frères Kouachi et Koulibaly, en réalité, il y avait une entente entre eux. Ils avaient communiqué. C'était un projet terroriste assez commun. Bon, voilà. Mais il y a des tas de questions à se poser. Et le fait que, finalement, ça ait lieu en même temps, c'était pas si évident que ça. Mmh. Et en plus, et je finis, sur les accusés, c'est pareil, il n'y a pas du tout la même stratégie de défense. C'est-à-dire que vous avez ceux qui sont là, les 14 qui vont être là, qui sont accusés, et il y en a 11 qui seront présents.
Oui, trois par contumace. Oui, voilà. Il y en a qui sont pas là.
Par défaut,
les deux frères et Ayad
Boumédia. Bon, là-dessus, si vous voulez, eux, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes, pour la plupart. Et les avocats de la défense vont dire, mais non, c'est une association de malfaiteurs de droit commun, c'est-à-dire, oui, d'accord, on leur a vendu des armes, on leur a donné des voitures, on
savait pas pourquoi, etc.
Mais c'était un braquage. Nous, on croyait que c'était classique, d'accord, du business, un braquage. Vous voyez, il y a des tas de choses qui sont extrêmement intéressantes dans les questions que la justice doit se poser pour organiser un procès comme ça.
Gilles Kepel, vous disiez tout à l'heure que c'était un procès pour faire advenir la vérité, mais le fait que ce soit filmé, cranté comme ça, comme un procès pour l'histoire, vous avez l'avocat Richard Malka de Charlie Hebdo qui dit qu'il veut plaider au nom de la liberté d'expression, Zineb El Razoui, l'ex-journaliste de Charlie, qui va être auditionné et qui dit « je veux que soit reconnu le mobile du crime, l'idéologie islamiste ». Donc il y a quand même cette notion de procès pour l'histoire et filmé en cela va peut-être le cranter encore plus, non?
C'est-à-dire, chacun des acteurs, évidemment,
projette
sa propre vision des choses. Mais le procès lui-même, lui, c'est autre chose que la somme des parties, si vous voulez. Et pour revenir sur ce que madame disait à l'instant, moi, il me semble que c'est une bonne idée. Enfin, l'universitaire que je suis, qui suit ces questions, je pense que c'est une très bonne idée, même si c'est compliqué, comme vous l'avez justement expliqué, de rassembler ces éléments, parce qu'ils s'inscrivent dans un tout. Si on avait séparé les trois, peut-être que ça aurait été plus simple en termes de logistique, mais justement la vérité, puisque c'est de ça qu'on s'occupe, aurait été certainement beaucoup plus difficile à trouver. L'élément qui me semble important aussi, ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à l'affaire Mera, c'est que justement, l'affaire Mera, c'est l'exemple du ratage de la police d'abord et dans une moindre mesure de la justice. Le patron du renseignement à l'époque, M. Squarcini, nous a bassiné avec le fait que c'était un loup solitaire.
Ah oui,
je n'ai jamais entendu une pareille imbécilité de ma vie. Il l'a même répété deux fois au procès Mera. C'était tout le contraire. Même nous, qui ne sommes pas des policiers, nous savions comment fonctionnaient ces choses-là. C'est aussi l'une des questions, si vous me permettez une seconde encore, Elisabeth, qui se pose à propos de ce procès. Et j'ai vu dans une... chez certains de vos excellents confrères, je parle aux journalistes, qu'on faisait le procès des petites mains, des lampistes.
Des seconds couteaux.
Pas du tout. Alors, je ne vais pas, c'est pas moi, je parle à la justice, je vais me prononcer sur la responsabilité individuelle de chacun. Mais il faut bien comprendre qu'il y a toute une nébuleuse. Et pour ça que le procès est important d'être pensé global, si vous voulez. Le gars qui était en Tunisie, ensuite en Belgique, qui est passé après en Irak, qui est revenu, machin, tout ça... On a toutes sortes de réseaux qui sont... Alors, qu'il ait fourni une Kalachnikov, une voiture ou autre, ça, la justice examinera le détail. Mais il est important, cette espèce de culture de l'excuse que j'ai vue chez certains disant « Ah là là, ce sont des petites mains, c'est la France raciste, etc. » Il faut arrêter ça. Justement, le procès est dans la vérité. Et vous avez dit, monsieur, tout à l'heure, c'est le triomphe du droit qui doit l'emporter. Et ça, c'est un véritable enjeu politique, puisque un certain nombre de ceux qui vont être jugés ou qui ont commis ces faits qui ne sont pas là estiment que le droit français, ça n'existe pas, qu'il n'y a que le